Bonjour, c'est Léa, journaliste à Bruxelles pour les affaires européennes. Avant de quitter la ville pour les fêtes de fin d'année, je voudrais me pencher avec vous sur un événement important dans la bulle européenne ces dernières semaines. Je ne parle pas du scandale de corruption au Parlement européen, ni du 9e paquet de sanctions contre la Russie, mais d'une étape majeure dans le pacte vert, ou le Green Deal en anglais. C'est un dossier technique et complexe, et dans ce paquet, j'ai particulièrement suivi les discussions sur l'introduction d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Appelons-le tout de suite CBAM, selon l'acronyme anglais. J'ai écrit un article à ce sujet pour Euronet Plus en 2021, et depuis, j'ai attendu que ce règlement soit terminé. Et c'est finalement arrivé, un peu comme un cadeau de Noël pour moi et pour l'Europe. L'UE a finalisé plusieurs textes importants de ce paquet climat afin de réduire les émissions de CO2 dans le secteur industriel. Et le CBAM est une pièce clé de cette stratégie. Ce mécanisme a réussi à atteindre un niveau d'ambition sérieux, mais des compromis sur le calendrier d'application des mesures ont dû être consentis. Et c'est ce dont je veux vous parler dans ce podcast. Le 17 décembre, un samedi, sur les coups de 2h du matin, dans les bureaux du Parlement européen à Bruxelles, on a pu entendre des applaudissements et même voir quelques pas de danse par quelques personnes qui étaient encore présentes. Les négociateurs du Parlement européen, des États membres et de la Commission européenne ont conclu leurs discussions visant à réduire les émissions de CO2 des industries dans la lignée de la stratégie climatique de l'UE. Ils se sont tout d'abord mis d'accord pour renforcer le marché du carbone, c'est-à-dire le système européen d'échange de quotas d'émissions, ou ETS en anglais. Ils ont étendu son champ d'application pour y inclure les émissions de deux pollueurs majeurs, le secteur de l'aviation et celui du maritime. Le fonctionnement du marché carbone est aussi amélioré grâce à la réduction du nombre total de quotas d'émissions qui seront disponibles sur le marché, ce qui signifie qu'il y aura moins de droits à polluer globalement dans l'UE. Et deuxièmement, les négociateurs se sont entendus sur un système de taxe carbone sur les produits importés dans l'UE, qui n'ont encore pas été taxés pour leurs émissions de CO2, et ça, c'est grâce au fameux CBAM. C'est la réussite majeure de cette fin d'année pour l'eurodéputé Pascal Canfin qui a participé aux négociations. L'UE était déjà pionnière avec son marché carbone créé dès 2005. Il fixe un prix pour les émissions carbone que les producteurs doivent payer dans certains secteurs industriels très polluants. Mais ce système ne s'est jamais vraiment montré efficace pour réduire les émissions, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, parce que pendant longtemps, le prix de la tonne de carbone n'était pas suffisamment élevé pour encourager les entreprises à moins polluer. La deuxième raison est que l'UE a fourni beaucoup de permis gratuits aux entreprises européennes. Elle l'a fait pour leur éviter d'être désavantagées par rapport aux producteurs en dehors de l'UE, qui ne sont eux pas soumis à des coûts liés à leurs émissions de CO2. Mais ceci doit changer avec le CBAM. À partir de 2026, les importateurs devront également payer pour le carbone émis par leurs produits. Cela concerne du moins les secteurs suivants: l'électricité, le fer et l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais et l'hydrogène. En conséquence du CBAM, l'allocation de quotas gratuits aux compagnies européennes opérant dans ces 6 secteurs ne sera plus nécessaire, étant donné qu'elles seront à pied d'égalité avec les importateurs. Pourtant, le sujet a entraîné de longs débats pendant 1 an et demi. Les entreprises ne voulaient pas se passer de leurs quotas gratuits d'un jour à l'autre. Elles ont alors tenté d'influencer les décideurs pour maintenir leurs bénéfices autant que possible. La réaction des politiques a été la suivante. Les quotas gratuits seront progressivement supprimés entre 2026 et 2034. D'ici 2030 déjà, près de la moitié de ces allocations gratuites devront être retirées du marché. Le reste aura encore 4 ans pour disparaître. Mais cela nous amène à 12 ans d'ici. Nombreux sont les observateurs qui espéraient un rythme plus rapide. La directrice générale du think tank Europe Jacques Delors, Geneviève Ponce, a milité depuis des années pour un CBAM. Avec ses collègues, elle a appelé à une sortie rapide des quotas gratuits depuis le début des discussions.
Maintenant, ce qui est vraiment important et même fondamental, c'est ce parallélisme total entre la disparition des quotas gratuits et l'introduction du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'était vraiment des vases communicants. Tant qu'il y a des allocations gratuites, il n'y a rien à compenser à la frontière. Et lorsqu'elles disparaîtront progressivement, on mettra le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et là, on comprend encore mieux l'importance de la disparition de ces allocations gratuites parce que ça va stimuler la disparition des émissions de dioxyde de carbone de ces secteurs à l'intérieur et à l'extérieur. Les secteurs qui ont reçu des allocations gratuites n'ont pas décarboné.
Son argument, c'est que si je suis une entreprise dans le ciment, par exemple, je vais recevoir de moins en moins de quotas gratuits dans les prochaines années, mais j'en recevrai toujours un peu jusqu'en 2034. Et cela me donne un avantage. Alors le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières doit également être progressivement déployé avant de taxer pleinement les importateurs, du moins jusqu'en 2034. Les négociateurs y ont pensé et ont prévu un ajustement du prix du CBAM. Alors au final, cela signifie que le prix du carbone pour les biens qui circulent sur le marché européen, produits à l'intérieur ou à l'extérieur, ne seront taxés pleinement qu'à partir de 2035. C'est beaucoup trop tard pour l'ONG Carbon Market Watch, qui a exprimé son mécontentement après avoir découvert le contenu de l'accord. Elle estime que l'ambition du CBAM est sapée par les droits gratuits à polluer. Au premier jour des négociations, le 15 décembre, l'ONG a organisé un rassemblement devant le Parlement européen à Bruxelles pour appeler à des règles ambitieuses dans l'ETS et le CBAM. Là-bas, j'ai rencontré Agnese Ruggiero, spécialiste politique, experte sur le marché carbone européen et les émissions industrielles chez Carbon Market Watch. Quand nous nous sommes parlé, le contenu de l'accord final n'était pas encore connu et la date de sortie des quotas gratuits devait atterrir quelque part entre 2032 et 2036. Bien trop tard pour Agnese Ruggiero, mais elle admettait tout de même qu'une réduction de moitié de ces allocations gratuites d'ici 2030 était acceptable.
La vérité est que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous regardions l'objectif 2030. Tout le reste est important, bien sûr, d'avoir en tête une date de fin globale pour les permis de polluer, et certainement en 2032 serait mieux qu'attendre plus longtemps. Mais le système d'échange de quotas d'émission sera révisé à nouveau avant cela. Il est important d'avoir au moins un objectif fixe pour 2030.
Il est vrai que l'ETS, le marché du carbone en Europe, devra de toute façon être revu en 2030, car la révision qui vient d'être accordée n'est valable que jusqu'à cette année. Ce qui veut dire que si les politiques veulent relever le niveau pour l'après 2030, ils en auront à nouveau l'occasion. Un autre élément de taille qui devra être revu est le champ d'application du CBAM, c'est-à-dire les secteurs qu'il couvre. Pour l'instant, il est donc limité aux secteurs que j'ai listés précédemment, l'électricité, le fer et l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais et l'hydrogène. Il faut rappeler que l'UE a aussi décidé d'inclure dans le CBAM quelques autres produits, des composants qu'on appelle précurseurs qui sont très présents dans le fer ou l'aluminium par exemple, ainsi que certains produits transformés. C'est le cas de petits objets comme des vis par exemple, qui contiennent un haut pourcentage de fer. Mais en ce qui concerne les autres produits transformés, prenez l'exemple des voitures, qui contiennent un certain volume d'acier, elles ne sont pas concernées par le CBAM. Ceci dit, l'UE devra revenir sur cette décision d'ici 2026, quand la taxe carbone commencera à être appliquée, et voir comment elle peut étendre ou non sa couverture. Le député européen et président de la Commission de l'Environnement au Parlement européen, Pascal Canfin, l'a expliqué à la presse.
Pour certains produits, comme les cars, et pour certains potential agri-food products.
Pour certains produits comme les voitures, éventuellement pour certains produits agroalimentaires, vous pourriez avoir un effet où en fait l'engrais est un élément clé des émissions de CO2. Et donc si vous n'importez pas l'engrais mais que vous importez le produit transformé grâce à l'engrais, alors vous avez toujours une absence de compétitivité et des désavantages pour l'industrie de l'UE. C'est exactement pour cela que nous nous sommes battus, pour une extension du champ d'application du CBAM aux produits en aval, ou plus tard avec une proposition de la Commission en 2026.
Pascal Canfin pense qu'il faut d'abord commencer avec un système simple pour ensuite l'étendre dans un second temps. Et l'experte Geneviève Ponce partage le même avis.
Je vois la rationalité d'inclure les produits en aval. Si on prend l'exemple de l'automobile, si on importe de l'acier qui est produit ailleurs et qui n'est pas faiblement carboné, on va payer le CBAM. En revanche, pour l'instant, si on importe des voitures qui sont produites à l'extérieur, dans leur entièreté, on ne paye pas le CBAM. Donc, il y a une rationalité à le faire, mais la conviction que nous avons, c'est que c'est tellement délicat, c'est tellement complexe, ce CBAM qui n'a jamais été mis en place par personne, c'est une première mondiale, que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre comment ça marche. Nous avions même proposé au départ de ne prendre que deux produits. Nous avions proposé de prendre le ciment parce qu'il y a peu de produits, ils sont facilement identifiables, leur contenu carbone facilement mesurable, etc. Et l'électricité parce qu'il y avait déjà des exemples de fuite de carbone dans l'électricité.
D'autre part, une extension du CBAM aux produits chimiques aurait aussi beaucoup de sens pour Agnese Ruggiero. Le Parlement européen, quant à lui, avait suggéré d'inclure les produits chimiques organiques. Mais cela devra attendre la révision en 2026.
I think the CBAM could have covered wider range of sectors. In particular, what's really missing from this agreement is the chemical.
En particulier, ce qui manque vraiment dans l'accord qui a été conclu, c'est le secteur chimique. Certains précurseurs qui finissent dans les produits en plastique et le plastique représentent une énorme catastrophe à notre époque, à la fois par la pollution qu'ils génèrent après leur utilisation jusque dans nos océans, mais aussi avant, car le plastique est extrêmement intensif en carbone. Ainsi, en commençant à supprimer progressivement les quotas gratuits accordés à ces secteurs, l'Europe les inciterait à trouver des alternatives en termes de matières premières utilisées et des alternatives en termes d'arrêt de l'utilisation du plastique, point final. Et cela donnerait également le même signal aux producteurs étrangers, au-delà de l'Europe, que l'Europe ne veut plus importer de plastique bon marché à forte intensité de carbone.
To producers abroad, beyond Europe, that Europe does not want to import cheap, carbon-intensive plastics anymore.
L'UE veut prendre son temps, à la fois pour le champ d'application et pour le calendrier d'entrée en vigueur des mesures. Elle est justement attaquée pour cela, à la fois par les ONG et par l'industrie, tous insatisfaits de la vitesse de mise en œuvre des mesures. Pour beaucoup de détracteurs, le CBAM ne couvrira pas assez d'émissions de CO2 pendant les 12 prochaines années. Quant à la révision du marché carbone à l'intérieur de l'UE, elle devrait mener à une réduction de 62% des émissions dans les secteurs concernés d'ici à 2030. C'est mieux que l'ancien modèle, qui ne permettait de réduire ses émissions industrielles que de 43%. Mais pour coller aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat, les ONG considèrent que les industries devraient réduire leurs émissions de 70% d'ici 2030. En tout cas, pour le moment, il reste aux États membres et au Parlement européen d'adopter formellement les textes du CBAM et de l'ITS, probablement en début d'année prochaine. Cette étape n'est habituellement qu'une formalité, mais dans ces deux cas précis, on peut s'attendre à d'éventuels rebondissements, comme ça a été le cas à plusieurs reprises dans ces dossiers. Nous voilà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous donne un bel aperçu d'au moins une des mesures du Green Deal. Et j'espère vous retrouver en 2023 dans de nouveaux épisodes.